D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Tous les hommes sont des frères, mais il arrive que les frères s'entretuent. Pour éviter de le faire trop positivement, ils utilisent des injures et des appellations péjoratives. Il semble que, pour que la rage soit efficace, elles doivent se déverser dans des figures symboliques. Et plus le symbole est imagé, plus il semble humiliant. Salope n'est pas immédiatement imagé, alors que truie l'est. Le choix des dons d'animaux pour diminuer la qualité humaine vient bien sûr de ce qu'une des glorioles de l'homme consiste depuis des milliers d'années à se dire supérieur aux animaux. Cela nous définirait même, malheureux animaux. Malheureux animaux à côté de nous, peuple parallèle et muet de souffrance ou d'indignation. Muet ou, tout au moins, dépourvu de langage parlé. Les animaux semblent avoir perdu une guerre contre nous il y a des milliards d'années et être devenus nos esclaves. Malgré leur braiement déchirant, leur gazouillis frivole, ni leurs protestations, ni leurs distractions ne nous touchent. Et nous traitons de linottes les distraits, d'ânes les imbéciles. Ah, je crois que j'écrirai un jour un conte où les animaux se donneront des noms d'hommes pour se faire taire. Les noms d'animaux, nous savons très bien en français qu'ils servent d'injures, puisque c'est précisément ce que signifie « nom d'animaux ». Âne, chien, serpent, crabe, punaise, paon, on prête à ces animaux des intentions humaines. Encore un effet de l'anthropocentrisme. Comment croire en effet qu'un animal puisse être vaniteux ou imbécile? Nous ne nous rendons pas compte que, en disant du mal des animaux, ce sont les hommes que nous dénonçons. Le plus instrumentalisé des animaux, c'est peut-être le porc. Dans le monde entier, et depuis environ 9000 ans qu'il a été domestiqué, pour autant qu'on puisse en juger, son nom de porc sert de terme injurieux pour signifier non pas un, mais au moins quatre vices, la malpropreté, la malveillance, la vanité et la luxure. Quel est le secret professionnel du porc comme symbole? Je reçois pour en parler Claudine Vassas, ethnologue au Centre d'anthropologie sociale de Toulouse, auteur de La bête singulière, Les juifs, les chrétiens et le cochon. Claudine Vassas, avant de parler des religions, je voudrais que nous abordions un peu ce sujet sous l'angle historique. Et en commençant assez anciennement, j'ai lu que dans l'Égypte ancienne, le porc était très méprisé par les nomades parce qu'il était consommé par les fermiers de la vallée du Nil. Donc il me semble qu'il y a déjà là une indication de ce qu'on a fait subir à ce malheureux animal. Et puis, petit à petit, en Égypte, il est tombé dans le discrédit et est devenu l'attribut de Seth, qui est un dieu démoniaque et qui est parfois représenté comme un porc qui dévore la lune. Alors, est-ce que tout de suite, il se met en place quelque chose, là, il y a très longtemps, sur cet animal?
Alors, effectivement, il se met en place quelque chose il y a très longtemps, mais cette mise en place est extrêmement complexe, car on ne peut généraliser la manière dont on a vu, consommer, utiliser, écarter l'animal. Il y a eu des travaux assez récents sur ces questions-là. Je pense en particulier à un chercheur suisse qui a fait une thèse sur le porc en Égypte ancienne et qui l'a intitulé d'ailleurs « Mythe et histoire à l'origine des interdits alimentaires ». Et je crois que le grand intérêt de son travail, c'est de montrer comment il y a à la fois une consommation, on a trouvé des restes osseux très importants dans la Haute-Égypte, dans des sites archéologiques, et en même temps, il n'est pas représenté dans les bas-reliefs, par exemple, mais il est surreprésenté dans les mythes, et en particulier dans celui auquel vous venez de faire allusion. Mais en même temps, ces mythes, qui sont des mythes cosmologiques, hein, c'est-à-dire qui sont toujours en relation avec la lune, le soleil et les étoiles, eux-mêmes sont assez ambivalents. Ils sont assez ambivalents. Par exemple, il y a une distinction entre le mâle et la femelle. C'est-à-dire que le porc noir, celui qu'on appelle le porc noir, qui est un avatar du dieu Seth, est considéré comme ayant blessé Horus, la lune, et d'ailleurs il est mis en relation avec les cycles de la lune et en particulier son obscurcissement, ce qui est tout à fait singulier, puisque ailleurs, et notamment dans les dans les domaines que j'ai explorés, il est mis en relation avec les femmes, avec le féminin. Bon, la lune est aussi parfois pensée comme féminine. Mais d'un autre côté, c'est aussi la truie, la femelle donc, qui est considérée comme étant une divinité positive. Elle est celle qui aurait avalé effectivement ses enfants, dit-on, elle mangerait ses enfants, mais pas du tout comme une truie monstrueuse, cannibale, mais plutôt comme un animal qui aurait à voir avec la régénération de la nature, etc.
Donc il y a une ambiguïté à la fois positive et négative.
Voilà, et je crois que c'est cette ambivalence, cette ambiguïté, cette duplicité, finalement, on la traduit moralement, lui prêtant à l'animal des traits extrêmement négatifs dans tous les domaines, cette duplicité, cette ambiguïté, cette ambivalence, les chercheurs en question, que j'ai rencontrés aussi, l'ont démontré sur leur terrain, en accord effectivement avec les travaux que j'avais pu conduire dans le domaine européen en relation avec les religions.
Mais alors, la question que je posais au début à propos des nomades et des fermiers sédentaires me semble intéressante, car ce que je voulais vous demander par là, c'est s'il n'entrait pas aussi dans la déviation mythologique, au départ, quelque chose de social et des jugements au fond sociaux qui se dévient en mythe. C'est-à-dire, voilà, les nomades qui se considéraient comme excessivement supérieurs aux fermiers ont méprisé ce que les fermiers consommaient et avec quoi ils gagnaient leur vie. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable comme élément d'explication ?
C'est la thèse, je crois, de Pierre Briand, sur les questions de litiges fonciers entre groupes sociaux. Et elle doit certainement, disons que cette implication est certainement présente. Bon, je ne peux pas vous répondre pour ce qui concerne ces périodes et ces domaines-là, mais ensuite, effectivement, tout ce qui concerne l'imaginaire et les représentations de l'animal vient s'inscrire dans le social.
Pour nous rapprocher de civilisations plus proches de la nôtre, évidemment, une chose très importante pour le porc ou le cochon. D'ailleurs, est-ce qu'il existe une différence entre animaux si ou porc et cochon est une appellation indifférente pour le même animal ?
En principe, cochon, c'est pour l'animal vivant, sur pied, et porc, c'est la viande, c'est la chair.
Donc on devrait plutôt dire cochon, si on parle de l'animal vivant.
Oui, je crois.
D'accord. Donc, pour en venir à une civilisation plus proche de nous, qui est la Grèce, tout le monde connaît dans l'Odyssée le passage où les compagnons d'Ulysse sont transformés en cochons, donc par Circé, la magicienne. Ulysse échappant lui-même à la métamorphose, mais il vit avec Circé, il obtient que ses compagnons recouvrent ensuite la forme humaine. Et là, on approche d'un des éléments de vice, si je puis dire, que je citais tout à l'heure, qui est la luxure.
Oui. Là, on approche d'abord l'humanité, la proximité entre l'humain et l'animal, et en particulier la très très grande proximité anatomique déjà entre le cochon et l'homme.
Quelle proximité ?
On pourrait dire énormément de choses au niveau de l'anatomie. Lorsque les paysans tuent l'animal et le suspendent pour l'ouvrir, presque tout le temps, j'ai entendu dire « Regardez, il est fait comme nous ». Et il est très très proche au niveau de ses organes, au niveau de sa chair, de l'humain. Et d'ailleurs, au XVIe siècle, lorsqu'on interdisait encore avant, au XVe, Moyen-Âge, lorsqu'on interdisait encore les dissections humaines, ce sont des truies et des porcs qui étaient amenés dans les amphithéâtres pour être disséqués et pour, à partir d'eux, travailler à la rechercher le fonctionnement du corps humain.
Vous-même avez assisté à des, comment dit-on, des dépeçages de porcs
J'ai très très peu assisté parce que c'est un spectacle, justement, je crois, assez difficile à supporter en raison de cette analogie, de cette proximité qui saute aux yeux. Elle saute aux yeux dès qu'on l'a tué parce qu'on le met sur une sorte de brancard qui ressemble à un cercueil. Il est lavé ensuite dans un récipient qui ressemble encore plus à un cercueil. Donc et en permanence, on travaille l'analogie de manière humoristique parfois, mais on la travaille dans les discours qui accompagnent la tuée du cochon.
Et donc, pour en revenir à Circé et Ulysse et à cette proximité humaine,
eh bien, je pense que la transformation, la métamorphose qu'on trouve ailleurs d'ailleurs, hein, qu'on trouve dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, l'une des raisons, dit-on, de l'interdit de la consommation du cochon dans l'islam, explication populaire, hein, ce serait que le prophète aurait transformé en porc, en singe aussi, mais en porc aussi, en cochon, des tribus, des groupes humains qui l'aura attaqué, qui n'aurait pas été favorable à sa parole. Et donc, c'est une punition. Il y en a d'autres exemples. Mais en même temps, dans le cas des hommes d'Ulysse et de leur transformation en cochon par Circé, effectivement, il y a aussi quelque chose qui fait signe du côté du troupeau humain et de sa manière de se comporter, et dont on rejoint effectivement un certain nombre de traits attribués à cet animal, dont la lubricité, la gourmandise, la grossièreté, la luxure, des mœurs dépravées, la liste est très longue.
Oui, dans un Liber Animalium, qui est un bestiaire latin du XIIe siècle, j'ai trouvé la phrase suivante, et je voudrais que vous me disiez ce qu'il faut en penser. « Le porc est une bête immonde qui fouille constamment la terre avec son groin pour y chercher sa nourriture. Il regarde toujours vers le sol et ne lève jamais la tête vers le Seigneur. C'est pourquoi il est l'image de l'homme pécheur. » Et là, on arrive à la religion chrétienne et à son interprétation.
Oui, les pères de l'Église, les premiers, et ensuite les théologiens au Moyen-Âge en particulier, ont véritablement enfermé le porc dans cette image-là. Et là, on touche effectivement au symbole tel que les a étudiés Michel Pastoureau. Hein, c'est-à-dire, on a démarré sur cette question-là, l'animal symbolisant l'humain dans ce qu'il a de plus mauvais, avec là le pécheur, effectivement, et cette image de la duplicité aussi à travers l'incapacité à regarder devant soi, à regarder dans les yeux, hein, les yeux tournés vers le bas, c'est assez terrible, je trouve, comme image.
Et pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on aurait choisi le cochon qui baisse les yeux, mais plutôt que la vache qui fait la même chose, ou le renard, ou n'importe quel quadrupède?
Parce que le cochon est déjà l'héritier, comme on l'a dit tout à l'heure, de toute une histoire, de tout un ensemble de représentations avec lesquelles, curieusement, le christianisme aurait pu rompre, puisque ce que j'ai montré dans mon travail, c'est la manière dont le christianisme a renoué avec le cochon pour se démarquer, pour se séparer effectivement des juifs, et en même temps à travailler à le faire passer en quelque sorte de son côté. Donc on aurait pu imaginer qu'il aurait eu une image qui se transforme, une image positive. Or ce sont justement les chrétiens qui ont au contraire accentué cette image du porc, et qui en ont fait notamment au Moyen-Âge l'emblème du pêcheur. D'ailleurs dans les sculptures, les bas-reliefs des églises, dans les miséricordes, vous savez, ces sièges dans les stalles où sous le siège, il y a des représentations souvent très burlesques et très grotesques. Le cochon représente la gloutonnerie et la luxure.
En même temps, la religion chrétienne n'est pas allée au contraire des deux autres religions, car une chose frappante est que les trois grandes religions monothéistes ont en quelque sorte démonisé le cochon, que ce soit les juifs, les musulmans ou les chrétiens, mais les chrétiens ne sont pas allés jusqu'à l'interdiction de la consommation de la viande.
Alors non seulement ils ne sont pas allés jusqu'à l'interdiction, mais au contraire, le premier siècle du christianisme, les premiers synodes disent nous devons manger du cochon, nous renouons avec le cochon, contre la synagogue, etc. Donc il y a là véritablement une volonté de rupture avec le judaïsme, mais en fait le cochon n'a pas été démonologisé. démiologisé, ou je ne sais pas comment il faut dire.
Démonisé peut-être.
Démonisé, n'a pas été démonisé par l'islam ou par le judaïsme. Ce sont les chrétiens qui le démonisaient.
Oui, bien entendu, mais néanmoins la consommation du porc est interdite dans les deux autres religions. Il y a des sourates de l'islam qui disent du mal du cochon. Maïmonide dit que le cochon se nourrit d'immondices, d'où il serait impur. Enfin, ils sont aussi, il me semble, hein, ou je me trompe?
Non, non, c'est tout à fait cela. Alors là, la question, effectivement, de l'interdit du cochon dans le judaïsme ou dans l'islam est assez différente pour chacune des religions. Pour le judaïsme, comme l'a montré Mary Douglas, une anthropologue anglaise, c'est un effet, elle a montré que c'était un effet d'une classification. Hein, c'est-à-dire que dans le Deutéronome ou dans le Lévitique, il y a la liste, hein, elle est assez longue, des animaux immondes, des animaux abominables au niveau de leur consommation. Et le cochon prend place dans un ensemble. Il appartient, les animaux qui sont évoqués ne sont pas clairs dans leur définition, dans leur classification. Ils appartiennent, ils ont des traits qui appartiennent à des règnes différents. Alors par exemple, il est dit que le porc a le pied fourchu, bon, comme le nombre de mammifères, la vache, le cheval, etc., mais ne rumine pas. Vous voyez, il est une sorte d'hybride, donc il n'est pas bon. On retrouve cela pour la consommation de certains animaux aquatiques. Il faut qu'ils aient des nageoires et des écailles pour pouvoir être consommés. Donc là, on a tout simplement un ensemble de classifications comme on en trouve dans toutes les cultures. Toutes les sociétés ont dit... Ça, c'est bon à manger, ça, c'est pas bon, pour des raisons diverses, parfois arbitraires, mais qui peuvent obéir aussi à une certaine logique. Et c'est ce que Mary Douglas a montré à propos des interdits juifs. Pour les juifs, une fois qu'on a dit ça, c'est pas bon à manger, c'est à peu près réglé. Le cochon n'occupe pas une place importante. Dans l'islam, il y a effectivement des sourates qui disent qu'on ne mangera pas. Je crois que c'est la bête trouvée morte, le sang et la chair du porc, parce qu'il est immonde. Et puis, il y a quelques versets qui disent cela, mais il n'y a pas ensuite de gloses explicatives importantes. Voilà, on ne le mange pas.
Oui. Malgré tout, Claudine Vassas, ces interdits sont fondés d'une certaine façon aussi sur des raisons hygiéniques.
Alors, l'explication hygiéniste, elle a été développée, soutenue par un anthropologue très connu qui s'appelle Mervyn Harris, et elle a été ensuite effectivement, et je fais partie, je crois, à ma manière de ceux qui l'ont contrée, parce que, bon, même dans les pays chauds, dans les pays très chauds, c'est très facile de conserver de la viande en la découpant en lamelles, en la faisant sécher.
Vous
voyez, voilà, en la salant, n'en parlons pas. Donc, je crois que ces explications-là tombent. Ensuite, ce que disent les chercheurs qui ont effectivement travaillé sur ces questions-là, il y a des pluricausalités. C'est difficile d'en isoler une unique. Et puis surtout, à partir de ou sur un interdit énoncé, comme on l'a dit tout à l'heure, on a créé des bonnes raisons. On a, par exemple, l'idée que la viande du porc donnait des maladies. Et le porc est associé aux maladies de peau et à la lèpre depuis l'Égypte, en effet.
Nous allons maintenant entendre le cochon, ou plutôt la cochonne la plus célèbre des temps contemporains, la cochonne snob nommée Miss Piggy. Elle chante une chanson qu'on pourrait qualifier de cochonne, It's Raining Men, avec Heidi Klum et Mel B.
Humidity's rising, barometer's getting low.
According to all sources,
the street's the place to go.
Cause tonight for the first time, just about 10:30, for the first time in history, it's gonna start raining.
Claudine Vassas, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ambiguïté même du cochon, ce qu'il ressemble parfois au corps humain, enfin sa morphologie rappelle la nôtre, vous avez dit que c'était des animaux pas clairs. Ça a même frappé dans des temps plus rationalistes, car j'ai trouvé dans l'histoire naturelle de Buffon, c'est-à-dire dans l'âge le plus rationaliste qui soit, puisque c'est de 1756, une presque attaque contre le cochon qu'il appelle, dont il dit qu'il a un genre ambigu. Il considère sa fécondité comme presque anormale. Lui aussi dit qu'il a des pieds inclassables et un estomac qui ne ressemble à nul autre exemple. Donc, est-ce que une des raisons, même dans des temps irréligieux, de la détestation du cochon ne vient pas justement de ce qu'on considère comme une ambiguïté?
Je crois qu'elle persiste à toutes les époques. C'est l'animal qui a suscité le plus de fantasmes, de projections fantasmatiques et un imaginaire encore en relation avec les humains. Enfin, c'est quand même étonnant qu'un naturaliste se laisse aveugler à ce point par ses discours et ses projections qui sont véritablement de l'ordre de l'irrationnel lorsque lui-même est censé faire une histoire naturelle avec un regard scientifique. Et là, je crois que on touche à quelque chose qui demeure. Et le porc, le cochon, est en permanence vu, analysé, perçu à travers ces projections qui demeurent.
Pour en rester sur la religion chrétienne, vous disiez que finalement c'était celle qui avait le plus organisé cette détestation du cochon, si je puis dire. Alors on a, pour se distinguer des autres religions et aussi par antisémitisme, si je puis dire, ou en tout cas pour se distinguer de la religion juive, il y a dans les évangiles une légende qui rappelle ce que vous disiez tout à l'heure du Coran, c'est-à-dire que c'est le moment où Jésus donne ordre aux démons de quitter le peuple des Géraséniens et de passer dans un troupeau de porcs qui se précipite du haut d'une falaise dans le lac de Tibériade. Donc là, c'est l'organisation typique de la mise à mort.
Oui, là, il est un peu moutonnier, je trouve. on pense au mouton de Panurge. Si l'on aborde cette question du christianisme, je crois qu'il faudrait rappeler aussi dans les interdits tels qu'ils sont énoncés par le judaïsme et par l'islam, le cochon vient après le sang. Il y a le sang, on ne doit pas manger des bêtes trouvées mortes, c'est-à-dire des charognes, du sang. Et c'est la consommation du sang qui est centrale, et dans le judaïsme, on le sait, on mange de la viande en l'ayant rincé, en ayant fait couler aussi le peu de sang qui pourrait rester, puisque de toute manière, l'abattage d'un animal, quel qu'il soit, même quand c'est pas le cochon, dans l'islam c'est pareil, doit entièrement le vider de son sang. La question du cochon recouvre, je crois, la question du sang. Je crois que l'interdit majeur, c'est l'interdit de consommation du sang, et en fait, il demeure en partie chez les chrétiens, alors même qu'ils ont renoué avec le cochon, dans la manière dont le sang de l'animal est traité de façon très différentielle aujourd'hui encore.
Donc, ah bon, comment ça? Excusez-moi, mais d'abord, comment ça? Et d'autre part, pourquoi à ce moment-là, l'agneau qui est si symbolique dans la religion chrétienne, puisque c'est l'agneau pascal et qui n'est pas dépourvu de sang, est admis et même idéalisé?
Justement, parce que là, il y a une bonne identification, comme on l'a dit, il y a une bonne identification au Christ et au sang du Christ, au Christ qui a donné son sang pour nous. Mais bon, l'agneau, on ne mange pas toujours son sang, ça arrive. Il n'est pas saigné de la même manière et il n'a pas la même quantité de sang que le cochon, dont on dit effectivement qu'il a la même quantité de sang que l'homme. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des régions d'Europe, en France aussi, ça peut se vérifier aussi bien entre divers pays, Portugal, Italie, Espagne, qu'à l'intérieur même de la France, où on ne consomme pas le sang du porc. Alors que première préparation du sang dans la fête du cochon, traditionnellement, c'est celle des boudins, c'est-à-dire des boyaux que l'on remplit de sang. Eh bien, dans les travaux que j'ai pu conduire, dans les terrains que j'ai pu conduire, j'ai vu qu'il y a des endroits où on ne peut pas supporter l'idée de consommer le sang. Donc, on saigne le porc et on jette le sang.
Vous avez particulièrement travaillé sur les légendes et les superstitions. Il y a dans la religion chrétienne une légende bien connue qui est celle de Saint Nicolas, l'histoire des trois orphelins qui demandent l'hospitalité à un boucher qui les met au saloir comme des cochons puis qui les découpe et les vend et Nicolas les sauve. Ça c'est bien connu, mais dans votre livre, Claudine Vassas, vous parlez aussi d'une légende des frères Grimm si dure qu'elle a disparu dans des éditions ultérieures et je voudrais que vous m'en disiez un mot, mais aussi de légendes, par exemple en Bretagne, de porcs nés d'une femme stérile, d'enfants qui naissent avec des queues de cochon. Alors ça c'est la greffe populaire de la démonisation du cochon ?
C'est pas la greffe populaire de la démonisation du cochon, je crois, c'est l'analogie qui est pensée aussi bien entre l'animal et le féminin. Hein, donc, on l'a dit en commençant cette émission, une truie, dire d'une femme c'est une truie, c'est vraiment une insulte et une injure profonde. Mais il y a aussi un rapport encore plus ambivalent, encore plus ambigu entre l'animal et l'enfant. Parce que je crois, à l'avoir montré à travers toutes les années que je lui ai consacrées, les formes traditionnelles d'élevage jusqu'au début des années 60, le petit élevage domestique où on avait un seul cochon dans la soue à côté de l'étable et au plus près de la maison, a conduit à faire que l'animal qui était pris tout petit et que l'on engraissait pendant un an ou au maximum pour l'abattre, était véritablement assimilé en partie à l'enfant de la maison, à la fois par les maladies qu'on lui prêtait, à la fois par les soins dont on l'entourait, à la fois par le traitement qu'on lui réservait. On en faisait une sorte de nourrisson et cela permet de mieux comprendre les analogies ensuite. Je pense aussi à Alice au Pays des Merveilles, hein, lorsque elle tient cet enfant dans les bras qui hurle et il hurle et c'est un petit cochon qui s'échappe. Donc comment, à travers ce que vous avez dit, les exemples que vous avez donnés, il y a des récits dans Ambroise Paré, qui est quand même un médecin du XVIe siècle, chez Laurent Joubert, qui est un médecin montpellierain du XVIe siècle, qu'il y a des dessins et il raconte qu'une femme a mis au monde des porcelets. D'ailleurs, c'est l'origine de la grande famille arlésienne des porcelets, qui est une famille noble, dont on disait que l'une des ancêtres avait mis au monde des cochons. Donc, en permanence, cette continuité mythique, fantasmatique, produit des discours, des récits, des représentations qui imprègnent tous les domaines et tous les types de textes, aussi bien des textes de médecins et de naturalistes que des légendes bretonnes, que des récits faits dans les chaumières.
Claudine Vassas, nous cherchons depuis tout à l'heure des raisons raisonnables à la calomnie de cet animal qui n'est pas ce qu'il dit. Et ma dernière question sera, est-ce que le secret de la symbolique de la démonisation du cochon serait-il que, comme tout ce qui est coutumier, c'est la démonstration que le préjugé est ce qu'il y a de plus difficile à ôter sous l'épaisse couenne de l'homme.
Si vous voulez, je pense que c'est dit de manière... oui, mais je pense qu'on n'est pas dans un préjugé, là, parce qu'on est dans autre chose. On n'est pas dans du symbole, on est dans une symbolique très ample qui se saisit de cet animal et qui lui fait occuper tour à tour toutes les places, tous les rôles, toutes les fonctions de façon continue, avec effectivement une ampleur particulière. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, pourquoi pas le mouton, la vache, le cheval, tous les animaux entrent dans des systèmes symboliques amples et complexes, mais je crois effectivement que le cochon mérite tout à fait le terme singulier que je lui ai appliqué pour en rendre compte. Il occupe une place à part et c'est celui qui a suscité le plus de représentations, le plus d'interprétations, le plus de discours de la part, je précise, de ceux qui le mange.
C'était Secret professionnel, le 237e. Réalisation Doria Zénine, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Bruno Mourlan. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.